Bonjour, Radio ERA Environnement reçoit aujourd'hui Olivier Henault, sénateur du Nord, vice-président de la Commission des affaires sociales, membre de la délégation sénatoriale à la prospective et de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. En l'espace de 2 décennies, la question climatique s'est imposée comme l'un des défis majeurs des politiques publiques. Pourtant, la diffusion auprès des élus des rapports publiés à intervalles réguliers du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, GIEC, créé en 1988, n'est pourtant pas systématique. En France, Olivier Henault a soumis le 6 décembre 2021 une proposition de loi pour y remédier. Bonjour Olivier Henault, sénateur du Nord. Vous allez prochainement présenter une loi visant à systématiser la distribution du rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat.
Quel est votre objectif ?
Mon objectif, évidemment, c'est qu'elle soit votée au Sénat d'ici la fin de l'année et puis ensuite qu'elle soit reprise par un groupe de l'Assemblée nationale dans sa niche, dans le cadre de la nouvelle législature, et que ainsi cette obligation devient impérative, c'est-à-dire de demander aux élus de locaux, municipaux, départementaux, régionaux, les maires, de faire en sorte qu'il y ait une obligation de prendre connaissance du rapport du GIEC et du risque majeur que représente le réchauffement climatique pour la planète et pour les générations à venir. Alors il y aura peut-être des amendements, par exemple, pourquoi pas une formation obligatoire aussi sur ce thème. Voilà, tout ça est en bonne voie et bien évidemment, ça n'est pas une affaire personnelle. Je souhaite que ce soit l'affaire de mon groupe UC-UDI, puis de la majorité sénatoriale et du Sénat présidé par Gérard Larcher, puis que ça fasse consensus même au Sénat au-delà des clivages partisans, parce que cette question n'est pas une idéologie, c'est une réalité scientifique, et puis plus tard à l'Assemblée nationale, et comme ça, ça deviendra une obligation et impérative.
Concrètement, la loi posera plusieurs principes. Lesquels ?
Alors, le principe, il est simple. C'est d'obliger les élus, d'obliger, les inviter à, parce qu'on n'oblige jamais les élus, bien sûr, les inviter à, mais obliger les maires, les présidents d'exécutifs, à remettre à chaque élu municipal, départemental, régional, une synthèse du rapport du GIEC pour aider à la prise de conscience du risque majeur que représente le réchauffement de la planète.
La question de l'urbanisation, de la sururbanisation est évoquée dans le dernier rapport du GIEC. Quel est le retour que vous avez par rapport justement à cette question de l'urbanisation ?
Je vais vous dire, c'est une question d'équilibre. Il ne s'agit pas non plus, parce que ça n'est pas une idéologie pour moi, ça n'est pas une idéologie pour nous, de bloquer toute construction de logement. Et vous voyez, l'une des difficultés, et c'est bien expliqué par Hervé Le Teurtre, là, et puis par le rapport des experts du GIEC, c'est qu'en fait, il y a 20 ou 30 ans, on était 3 milliards, et on va vers 9 milliards. Donc, et c'est un peu partout pareil. Il ne s'agit pas d'empêcher la construction de nouveaux logements, parce qu'il y a des demandes de logements. Il s'agit de faire en sorte que les nouveaux logements qui sont construits soient neutres en termes de rejet de carbone et de rejet de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. C'est ça la question. Il ne s'agit pas de figer les choses. La sururbanisation, si ça veut dire évidemment continuer à sacrifier des espaces agricoles ou des espaces forestiers, ce n'est pas possible, bien sûr. Mais il ne s'agit pas d'empêcher toute construction de logements. Ça n'est pas ma vision, moi. Parce qu'à ce moment-là, vous aurez une crise du logement terrible et il y a des gens qui pourront plus loger. Ça ne peut pas être ça, lutter contre le réchauffement climatique. faire en sorte que nos décisions, elles soient bien évidemment compatibles avec les réalités humaines, mais qu'on fasse en sorte qu'elles soient neutres du point de vue du rejet de carbone et du rejet des gaz à effet de serre. Voilà, c'est ça la grande question. Et pour ça, il faut avoir lu le rapport du GIEC.
Justement, vous l'avez lu ?
Ah oui, oui. En tout cas, je l'ai largement lu et j'ai lu la synthèse. Oui.
Et quel est votre point de vue, alors, en dehors de ce rapport sur l'adaptation, au mois d'avril, donc le 4, normalement, ça sera la publication du second rapport sur l'atténuation. Quel est votre point de vue sur la situation énergétique en France ? Et quel mix énergétique, selon vous, vous pensez qu'il serait nécessaire d'avoir pour les villes ? Le tout renouvelable ou le tout nucléaire ?
Je ne pose pas les choses dans cette, avec cette brutalité, moi. Je pense que c'est une question d'équilibre. En tout état de cause, si je vois les choses de manière globale, là, on rentre dans le dur et on est dans le vif du sujet. Le problème du GIEC et des accords de Paris, et puis de tout ce qui est construction politique, sur la lutte contre le réchauffement climatique, c'est que c'est une construction qui s'appuie sur le multilatéralisme. Les accords de Paris, c'est un exemple du multilatéralisme. Or, le multilatéralisme est en crise. En crise sur le plan diplomatique, en crise sur le plan économique, la guerre le révèle. Donc c'était cette intuition que j'avais. Et c'est pour ça, et je pense que ça ne fait que commencer, c'est pour ça que je crois que la lutte contre le réchauffement climatique ne peut pas être l'affaire des seuls États. C'est l'affaire des citoyens, c'est l'affaire des jeunes, bien sûr, parce que c'est les générations à venir, mais c'est surtout aussi l'affaire des pouvoirs locaux. D'où cette décision pour impliquer encore plus les maires, les conseillers municipaux, les conseillers départementaux, les conseillers régionaux, de les inciter à prendre connaissance du rapport du GIEC. Maintenant, sur la question énergétique, moi, je pense que, bien évidemment, la clé de tout ça, c'est de tourner le dos le plus vite possible. Mais c'est pas gagné, hein, quand on voit que l'Allemagne va relancer ses centrales à charbon pour être moins dépendant du gaz russe. C'est pas gagné, hein, c'est pas gagné, parce que ça aussi, ça fait des particules, ça fait des gaz à effet de serre. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on trouve l'équilibre entre le nucléaire. On ne se passera pas du nucléaire au moins dans un premier temps pour les 30-40 ans qui viennent, peut-être 50. Et puis ensuite, les énergies renouvelables. Mais je ne pense pas qu'on soit suffisamment technologiquement prêt pour ne miser, pour tourner le dos à l'énergie fossile, le gaz, bien sûr, mais surtout le pétrole et encore plus le charbon, pour tourner le dos à ces énergies fossiles. On a besoin du nucléaire, et sans doute que demain, avec d'autres inventions scientifiques, on pourra aussi se passer du nucléaire et être totalement en énergie renouvelable. Mais je ne pense pas que cette heure-là soit déjà arrivée. Donc il faut trouver un équilibre entre nucléaire et énergie renouvelable, et puis gérer cette double transition, la transition de l'énergie fossile vers l'énergie nucléaire et l'énergie renouvelable, et puis demain totalement vers l'énergie renouvelable. Mais ça va mettre du temps. Et en même temps, on ne peut pas se passer de nucléaire parce qu'on est pressé. Parce que sans ça, on dépassera les 1,5 degrés, voire on les dépassera largement et ce sera dramatique.
Justement, vous travaillez avec Hervé Le Treut, vous êtes accompagné par Hervé Le Treut par rapport justement à cette sensibilisation des élus. Quel est le retour que vous avez sur le nucléaire? Alors, le livre Sauvons le climat, justement, en parle en disant que c'est une énergie décarbonée. Quel est le retour que vous avez sur la question du nucléaire?
Je pense que c'est une interrogation permanente. Je ne vous cache pas que au lendemain de Fukushima, parce qu'il y a des dates clés, il y a eu quand même un vrai doute sur le nucléaire, parce que ce serait mentir de dire qu'il est complètement sans inconvénient. Hein. Bien sûr, il y a des questions lourdes de sécurité qui se posent, mais il me semble qu'il y a une prise de conscience quand même qu'on ne tournera pas le dos aux énergies fossiles, des énergies fossiles, sans passer par une part de nucléaire. On n'arrivera pas, je pense que ce serait se mentir, de dire que on va passer directement des énergies fossiles aux énergies renouvelables. Je pense que c'est se mentir. Voilà. Et de toute façon, on va pas non plus éteindre la lumière, hein, on va pas non plus éteindre les usines, on va pas non plus arrêter de se déplacer, on va faire des économies, on va faire en sorte d'être moins consommateur. Mais malgré tout, le développement, la vie humaine a besoin d'énergie. Hein, on a besoin de cette énergie. Donc, je trouve qu'il y a une évolution plutôt favorable au nucléaire, avec évidemment toujours des questionnements sur les questions de sécurité. Mais l'évolution des mentalités, beaucoup se disent, on ne fera pas l'économie d'un passage par l'énergie nucléaire pour décarboner notre économie.
Ce projet de loi sur justement l'explication du GIEC sur la lutte contre le changement climatique et les réponses va être présenté prochainement. On est à quelques semaines des élections présidentielles. Quel est le message que vous souhaitez transmettre à la jeunesse ?
Le message que je veux transmettre à la jeunesse, déjà, c'est qu'il faut voter. Parce que quand vous regardez les taux d'abstention, et encore plus d'ailleurs quand les élections sont des élections territoriales, hein, puisqu'il s'agit bien des territoires, les taux d'abstention des jeunes sont très très élevés. Et donc j'espère que ça sera moins net au présidentiel, j'espère qu'il en sera de même pour les élections législatives, mais la démocratie représentative, le moment clé, c'est le moment du vote. Alors, c'est faux de dire qu'on n'a pas le choix. Je veux dire, à 12 candidats, on a le choix de voter pour sa sensibilité. Et je ne vois pas quelle sensibilité manque, d'ailleurs, à l'occasion de cette élection présidentielle. Donc déjà, voter. Deuxièmement, pas seulement pour les présidentielles, les législatives, mais aussi pour tous les scrutins qui vont venir, il faut faire en sorte que cette préoccupation du réchauffement climatique, ça ne soit pas une idéologie, mais que ça soit une transversalité, une préoccupation majeure et essentielle de tous les courants politiques dominants. Alors il y en a qui voudront aller un peu plus loin, il y en a d'autres qui diront qu'il faut faire plutôt par les énergies renouvelables tout de suite, d'autres qui diront qu'il faut passer par le nucléaire. Enfin, il y a un débat, bien sûr, hein. C'est ça la grandeur de la démocratie. Mais la démocratie représentative doit être l'affaire de la jeunesse. Et ça, c'est un sujet. Parce que si ce n'est pas l'affaire de la jeunesse, si les jeunes ne se mobilisent pas et ne votent pas, c'est plus difficile d'exiger des élus eux-mêmes qu'ils dépassent les préoccupations de l'immédiateté pour se projeter sur le futur. C'est aux jeunes aussi d'exiger que leurs représentants se projettent et prennent en compte cette question du réchauffement climatique. Parce que le gros défaut de ce réchauffement climatique, enfin son inconvénient, c'est que c'est pas pour tout de suite. Et donc il est difficile pour les responsables publics, mais plus largement pour l'âme humaine, de dépasser l'horizon de son quotidien et de voir loin. C'est toujours compliqué pour la nature humaine de voir loin. Et donc, c'est aux jeunes de s'emparer de cette question. Et s'emparer de cette question, c'est bien évidemment militer dans les associations, être citoyen, mais être citoyen dans la démocratie représentative, c'est d'abord voter. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, les jeunes doivent se dire ça.
Et pour terminer, quel est votre rapport entre la ruralité et les villes ? Comment justement va se faire cette vulgarisation sur le rapport du GIEC ? Parce que l'accès à l'information est différent en fonction des localités.
Pour moi, il n'y a pas de grands élus ou de petits élus. Hein. Il y a des élus de grandes communes, de plus petites communes. Moi, je ne suis pas pour le... Je n'ai jamais été tellement sensible à la segmentation rat des villes et rat des champs, vous voyez. Je pense qu'on a une préoccupation commune. Je pense que l'agriculture est en train de faire sa mutation, que peut-être elle doit l'accélérer, elle doit l'accélérer à la fois pour le bien manger, hein, pour d'ailleurs pour les agriculteurs eux-mêmes. Et donc cette mutation, elle va se faire, elle doit s'accélérer peut-être en prenant en compte le rapport du GIEC, les risques que font reposer sur nous toutes et nous tous, dans les villes mais aussi dans les campagnes, le réchauffement climatique. Je pense que oui, c'est aussi l'affaire de la ruralité, hein. L'écologie ne doit pas être l'affaire des centres urbains et des bobos des quartiers des centres urbains. C'est la raison pour laquelle je dis ça ne peut pas être une idéologie, ça doit être une transversalité. Voilà.
Je vois. Eh bien, merci, monsieur le sénateur.
Merci.